Il est précisément 18h sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, vous écoutez Le Monde Change.
Même pas peur. Malgré tout, même si tu termines ma vie, vraiment, j'ai bien vécu. Je suis un soldat mort au combat.
Il attendait la mort avec sérénité. Axel Kahn s'y était préparé. L'ancien président de la Ligue contre le cancer, célèbre généticien, vient donc de s'éteindre à 76 ans, en nous offrant au passage une précieuse leçon de vie.
Passe ton bac d'abord. Les 715 000 candidats de l'édition 2021 sont fixés et ne venez pas leur parler d'un bac au rabais.
Ça tangue chez les Républicains. Il est urgent de désigner un capitaine. Encore faut-il y arriver.
À Cannes, le jury donne le ton de la quinzaine. Politique et écologique, le tapis rouge sera un peu plus vert et les discours plus engagés.
La 10e étape du Tour de France, arrivée au sprint il y a quelques instants et nouvelle victoire de Britannique Cavendish. Pogacar conserve le maillot jaune. La Bourse de Paris a terminé ce soir en nette baisse, moins 0,91% à 6507 points.
La tendance météo, Marlène Duret, bonsoir.
Bonsoir Rémi, bonsoir à tous. Après un répit en début d'après-midi, les pluies orageuses ont repris du service sur l'est du Massif central et le nord de Rhône-Alpes. Les départements du Rhône et de l'Ain restent pour le moment en vigilance orange, pluie, inondation, mais l'alerte devrait être levée dans les heures à venir. On va détailler tout ça à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était un homme engagé, écouté et reconnu qui prenait la vie et la fin de vie avec philosophie. Axel Kahn s'est donc éteint aujourd'hui à 76 ans.
Il était un acteur majeur de la politique scientifique en France, Anne Le Gall.
Oui, tour à tour, médecin en hématologie, chercheur à l'INSERM, président de l'Université Paris-Descartes, membre du comité national d'éthique. Il s'était spécialisé dans les maladies génétiques, publiant près de 600 articles dans des revues internationales. En 1997, à l'occasion du clonage de la brebis Dolly, le grand public avait pu découvrir son talent passionné de vulgarisateur.
C'est une grande première qui va permettre d'étudier un phénomène qui passionne tout le monde, qui est le phénomène de la différenciation. Comment un œuf, une cellule unique, va donner quelqu'un avec des cheveux, un nez, des oreilles, etc. C'est passionnant.
Sois raisonnable et humain, lui avait soufflé son père avant de mourir. Tout au long de sa vie, Axel Kahn s'est aussi passionné pour l'éthique, la philosophie et la politique. Il s'est engagé au Parti communiste dans les années 70, puis au Parti socialiste. En 2012, il s'était présenté comme candidat aux législatives à Paris. Un échec, mais il en avait alors profité pour réaliser à 70 ans un vieux rêve, traverser la France à pied avec un sac à dos, 4000 kilomètres dont il avait tiré deux livres, brossant un portrait de la France et de ses habitants. Le diagnostic de sa maladie avait été posé il y a un an et Axel Kahn l'avait rendu public mi-mai. « Je lutte contre le cancer et il se trouve que la patrouille m'a rattrapé », avait-il alors déclaré. Il s'était mis en retrait de ses fonctions de président de la Ligue contre le cancer et s'était lancé dans l'écriture d'un blog dans lequel il partageait des pensées apaisées autour de la fin de vie. Son dernier message, posté le 22 juin, laissait déjà entrevoir la fin du combat contre la maladie.
Merci Anne Le Gall du service Société d'Europe 1.
Et depuis l'annonce de sa disparition, de très nombreux hommages de la part de la classe politique notamment, mais aussi de ses pairs bien sûr. Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique notamment, salue l'humanisme d'Axel Kahn.
Est-ce que j'ai de la tristesse? Je ne sais pas, parce qu'il a tellement, je dirais, à la fois programmé les conditions de son décès que voilà, il ne faut pas être triste, il faut penser à Axel tel qu'il a voulu. Alors Axel Kahn, c'est un pionnier de la génétique, c'est un homme de réflexion qui a beaucoup contribué à une série de grandes questions autour de la bioéthique, et c'était un homme engagé comme je les aime. Je ressens vis-à-vis d'Axel de l'admiration, parce que c'est une de nos grandes figures, et on en a certes, mais pas tellement, de cette médecine, de cette science à la française. Et puis, il y avait derrière Axel, était un grand humaniste qui parle aujourd'hui. Mais voilà, je dis, ne soyons pas tristes, puisqu'il n'a pas voulu être triste.
L'hommage de Jean-François Delfraissy à Axel Kahn. Jean-François Delfraissy au micro-européen de Jean-Jacques Herry.
Et d'ici une dizaine de minutes, je recevrai Didier Sicard, président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique, qui connaissait très bien Axel Kahn.
Décrocher son bac, quoi qu'on en dise, ça reste l'un des temps forts d'une vie. Ils étaient 715 000 ce matin à se ronger les ongles en attendant le verdict.
Et même quand on sait que le contrôle continu comptait cette année pour 82% dans la note finale pour cause de Covid, les intéressés ne veulent pas entendre parler d'un bac au rabais comme en mai 68 par exemple.
Une année décidément particulière hein, puisque la plupart des lycéens ne se sont même pas déplacés pour connaître leurs résultats, comme l'explique Jean-Luc Guéret, il est proviseur au lycée Charlemagne à Paris.
L'habitude a été prise maintenant depuis quelques années progressivement d'aller chercher les résultats sur Internet, et avec l'année de confinement l'année dernière, ça a été beaucoup plus massif, donc on s'attendait à avoir peu de monde. C'est vrai que ça avait un petit côté sympa de voir les élèves avait exulté, mais artificiel en même temps, puisqu'on était dans une coutume qu'on reproduisait, mais avec moins d'incertitude que par le passé. Ma génération s'en souvient, la vôtre aussi. Je pense que c'est quelque chose qui se perd énormément. Là, vous voyez, ils étaient une poignée, quelques dizaines, alors qu'il y avait 700 candidats sur le jury. Les résultats étaient attendus avec la part du contrôle continu et ils avaient un petit doute sur la mention, mais pas sur l'admission.
Jean-Luc Guéret, proviseur au lycée Charlemagne à Paris, au micro Europe 1 de Virginie Riva.
Jean Castex entérine l'abandon du projet de révision constitutionnelle sur le climat, faute d'accord avec le Sénat. Emmanuel Macron avait repris à son compte une proposition de la Convention citoyenne portant sur un référendum pour inscrire cette lutte contre le changement climatique dans la Constitution. Il ne pourra donc pas tenir sa promesse.
Syndicats et patronats reçus à l'Élysée aujourd'hui, à la sortie, pas d'annonce sur le sujet explosif des retraites.
Et oui, les décisions attendront. Emmanuel Macron a opté pour un tour d'horizon de la situation sanitaire, économique et sociale sur fond d'inquiétude autour du variant Delta. Il a également été question de la vaccination, alors que Jean Castex doit consulter les élus locaux jeudi sur une possible obligation pour les soignants.
Le variant Delta qui pourrait bien nous gâcher les vacances, en tout cas pour ceux qui partent à l'étranger.
La Catalogne notamment est face à une hausse des cas, en particulier chez les jeunes qui ne sont pas encore vaccinés. Cette région espagnole est donc obligée d'imposer de nouvelles restrictions. Les discothèques et autres lieux de divertissement dans des espaces clos vont devoir refermer. Situation très préoccupante également en Tunisie où les hôpitaux sont débordés. Le pays enregistre même un nombre de décès quotidiens sans précédent depuis le début de la pandémie.
Les Républicains de plus en plus sous pression en vue de la présidentielle, toujours à la recherche de leur candidat.
Alors que se tient le bureau politique de LR, les sujets de discorde se multiplient. Casting, méthode, calendrier. On peut dire que ça coince à tous les étages, Aurélie Herbemont.
Ah oui, vous savez, rien n'est simple quand il s'agit de parler présidentielle à droite, mais première étape franchie ce soir, tout le bureau politique vient de voter la proposition de Christian Jacob, oui au principe de la primaire sur le papier, mais en échange du maintien du calendrier voulu par le président du parti, à savoir pas de vote avant novembre. Christian Jacob a ouvert le bal tout à l'heure en disant son souhait de voir un candidat qui fasse la preuve de sa capacité à rassembler. À ce stade, personne ne l'a fait, a-t-il dit. Alors autour de la table, vous avez des vrais partisans de la primaire, Jean Leonetti qui doit l'organiser, ou Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez qui veulent être candidats. Des vrais partisans de la primaire donc, mais aussi des anti-primaires, primaires si j'ose dire, notamment les lieutenants de Xavier Bertrand qui s'imaginent en candidat naturel de la droite. Et au milieu de tout ça, Christian Jacob qui a un espoir que tous les candidats potentiels finissent par se réunir en conclave et décident entre eux qui va à la bataille présidentielle avant le 25 septembre. Chacun y trouve donc à peu près son compte ce soir. Xavier Bertrand peut espérer plier le match dans les sondages d'ici là et les autres peuvent lancer leur campagne en espérant le rattraper. Mais Christian Jacob a mis en garde tout ce petit monde. Après 10 ans d'opposition, on ne peut pas se permettre la division.
Bien, Aurélie Herbemont en direct du siège des Républicains à Paris. Le maire Europe Écologie Les Verts de Colombes dans les Hauts-de-Seine, Patrick Chemovitch, condamné à une amende de 3 000 euros pour avoir comparé le zèle des policiers et des gendarmes qui traquent les migrants à celui de ceux qui avaient mis en œuvre la rafle du Veldiv.
Le réquisitoire cet après-midi au procès Troadec.
La perpétuité requise pour Hubert Caouissin pour le quadruple meurtre de la famille Troadec en 2017 à Orvault près de Nantes et 3 ans ferme requis contre Lydie Troadec accusée de recel de cadavres et de modification de la scène de crime.
La justice française ordonne à Twitter de fournir à des associations de lutte contre les discriminations des documents détaillant ses moyens de lutte contre la haine en ligne.
Et ce, dans un délai de 2 mois, 6 associations avaient assigné le réseau social estimant que l'entreprise manquait de façon ancienne et persistante à ses obligations de modération.
Europe 1, Rémi Bozzaro.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 avec un jury très politique cette année à Cannes. Le festival démarre ce soir.
Et puis la 10e étape du Tour de France remportée une nouvelle fois par le Britannique Cavendish.
A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Rémi Bozzaro.
La suite du journal d'Isabelle Millet sur Europe 1 et on part tout de suite à Cannes. Ça y est, c'est parti pour la grand-messe du cinéma.
Et oui, première montée des marches d'ici quelques minutes et première rencontre avec le jury cet après-midi. Un jury présidé par Spike Lee et qui a donné le ton d'emblée. Hein. Mathieu Charrier, vous êtes en direct avec des discours très engagés, notamment politiquement.
Ah oui, dès les premières minutes de cette conférence de presse, d'ailleurs cet après-midi, le président Spike Lee explique, prenant George Floyd en exemple, que les Noirs sont toujours traqués comme des animaux, ce sont ses mots, 22 ans après la présentation ici de son film engagé. Puis il enchaîne en réponse à des questions de la presse. Écoutez notamment comment il surnomme Donald Trump.
This world's run by gangsters.
Ce monde est dirigé par les gangsters. L'agent orange, l'autre type au Brésil et Poutine. Ils vont faire tout ce qu'ils souhaitent. Ils n'ont aucune morale. Aucun scrupule. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Nous devons dénoncer ces gangsters.
Voilà, le ton est donné. À côté de Spike Lee, un jury qui acquiesce et soutient également d'une même voix la prise de parole d'une journaliste géorgienne émue qui rappelle que certains de ses collègues sont emprisonnés dans son pays et que les droits des LGBT régressent en Géorgie. Un jury composé de plus de femmes que d'hommes cette année, c'est une première, a souligné Mélanie Laurent, qui fait partie et qui a rappelé aussi l'importance de l'écologie. Vous savez que le festival s'engage cette année. Mati Diop acquiesce, Mylène Farmer esquisse. Donc voilà, impossible évidemment de dire quel sera le palmarès que ce jury va décerner, mais une chose est sûre, il devrait être teinté de beaucoup de politique. C'est la 7e conférence de presse du jury à laquelle j'assistais à Cannes et sans aucun doute, c'est celle qui était la plus solennelle. Le ton est donné.
Eh bien, merci Mathieu Charrier en direct sur la Croisette. Et à 19h, on sera au pied du tapis rouge avec Frédéric Michel pour la toute première montée des marches.
L'Euro de football et première demi-finale ce soir.
L'Italie affronte l'Espagne à partir de 21h à Wembley. Un classique, mais quel classique! Les deux équipes se sont rencontrées à 4 reprises lors des 3 dernières éditions de l'Euro. Match que vous pourrez suivre évidemment en direct et en intégralité sur Europe 1. Grande soirée foot dès 20h avec Lionel Rousseau. En attendant l'autre demi-finale demain, Angleterre-Danemark.
Et à propos de football, le parquet de Paris annonce ouvrir une enquête sur des tweets racistes contre les Bleus.
Des messages qui ont visé apparemment certains joueurs après leur élimination de l'Euro. Une procédure qui fait suite à des signalements de tweets haineux transmis par la plateforme Pharos.
Sur la route du Tour de France, c'était la 10e étape aujourd'hui.
Europe 1 en direct du Tour de France.
Bonsoir Axel May.
Bonsoir.
Avec une nouvelle victoire, décidément, pour le Britannique Cavendish.
Oui, ce qui semblait encore improbable avant ce Tour de France va peut-être se réaliser. Après Fougères et Châteauroux la semaine dernière, la fusée de l'île de Man s'est offerte ici à Valence sa 3e victoire sur cette grande boucle, la 33e de sa carrière sur le Tour. Et Mark Cavendish n'est donc plus qu'à une unité du record d'Eddy Merckx. C'est un record qui semblait inaccessible, je vous disais, parce que le Cav, comme on le surnomme parfois, n'avait plus gagné sur les routes du Tour depuis 5 ans et à 36 ans semblait davantage en pré-retraite que capable de battre les meilleurs sprinteurs du monde. Il vient de le faire 3 fois. Nul doute que du côté de la Belgique, Eddy Merckx doit être en train de cocher les étapes qui restent pour les sprinteurs pour voir où il pourrait perdre son record à ce rythme-là. Ça pourrait être dès vendredi à Carcassonne.
Et bien, on suivra ça avec vous, évidemment. Merci beaucoup, Axel May, sur la route du Tour.
C'était le Point Étape. Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Énergie.
Et merci, Isabelle Millet. On vous retrouve à 18h30 pour le rappel de l'actualité et à 19h, évidemment, pour un nouveau journal complet. La météo, Marlène Duret. Et on fait le point avec vous sur cette alerte pluie-inondation qui concerne les départements du Rhône et de l'Ain.
C'est une alerte orange, effective encore quelques heures. Alors sachez que cet après-midi, à l'aéroport de Lyon, on relevait l'équivalent de 3 semaines de pluie. Et puis dans les départements limitrophes aussi, on a eu de bons cumuls, même s'ils étaient placés en jaune. Je pense à l'Isère, à Reventin-Vaugry. 88 mm relevés à 17h, dont 28 tombés entre 15h et 16h. Et bien ça nous fait, parce que c'est plus parlant, plus d'un mois et demi de précipitations. Voilà, et ces pluies sont en train de se décaler en ce moment vers l'est. Alors demain mercredi, le temps va rester pluvieux sur une bonne partie est de la région Rhône-Alpes, dans le Jura, et en particulier l'après-midi où le ciel va commencer à devenir un petit peu menaçant avec encore de bonnes averses orageuses, ciel menaçant qui va gagner peu à peu la Provence-Alpes-Côte d'Azur, jusque-là épargnée. Et puis on a de nouvelles averses qui vont gagner par l'ouest. Dès le matin, ça va se décaler tout doucement, ça peut même tourner à l'orage. Alors les Hauts-de-France sont concernés, hein, le bassin parisien, le massif central, le quart sud-ouest, et c'est toute une moitié est du territoire qui sera touchée en fin de journée. Les températures au plus chaud de la journée, 18 degrés à Ouessant et Biscarrosse, nous aurons 20 à Bordeaux, du 20 degrés aussi du côté de Dieppe, 23 à Paris, 24 à Annecy, 26 à Lyon, 27 à Cannes, 29 en Avignon et jusqu'à 33 degrés à Porto Vecchio en Corse.
Et tout cela le plus souvent sous la pluie, on l'aura compris, peut-être pas en Corse.
Pas en Corse, non, le ciel va se voiler, je peux le préciser, et puis les régions du Grand Est sont un petit peu épargnées aussi.
Merci beaucoup Marlène, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur la météo.
Europe 1, Rémi Bozzaro.
Dans un instant, je reçois Didier Sicard, président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique. Nous évoquerons ensemble Axel Kahn, l'ancien président de la Ligue contre le cancer qui vient de nous quitter.
Europe Soir, le 18-20, Rémi Bozzaro.
La mort ne me fait pas peur, je sais qu'in fine elle va gagner, mais elle ne m'aura pas dans l'angoisse, elle ne m'aura pas dans la terreur. Elle m'aura avec un petit sourire ironique aux lèvres, en lui disant « Oui, certes, tu vas emporter ma vie, mais la mort emporte toujours la vie in fine, mais même pas peur. Malgré tout, même si tu termines ma vie, vraiment j'ai bien vécu. Je suis un soldat mort au combat. »
C'est la voix d'Axel Kahn qui résonne à 18h et passé de 18 minutes sur Europe 1, une voix sage et populaire qui vient de s'éteindre. L'ancien président de la Ligue contre le cancer s'est éteint à l'âge de 76 ans, victime de ce cancer dont il savait qu'il l'emporterait. Il en parlait encore ces dernières semaines. Bonsoir Didier Sicard.
Oui, bonsoir.
Vous avez travaillé avec Axel Kahn au sein du Comité consultatif national d'éthique pendant plusieurs années. Vous le connaissiez parfaitement. Vous avez entendu, comme nous, j'imagine, l'évocation qu'il faisait ces dernières semaines de sa vie, avec cette détermination à se battre pour ses causes, à apprécier la vie jusqu'au bout. Cette façon de parler ouvertement de la mort à venir, ça vous a surpris qu'il l'expose ainsi ?
Non, ça ne m'a pas surpris, parce que ça a toujours été un personnage d'un courage et d'une authenticité rare. Comme si, au fond, l'engagement, la vérité, l'honnêteté intellectuelle faisaient partie de sa vérité personnelle. Et je me souviens qu'en l'an 2000, quand nous avions discuté sur le sujet de l'euthanasie, il avait été particulièrement brillant et je me souviens que l'ensemble du comité l'écoutait. Beaucoup plus que moi. Moi, j'étais le président, mais c'était lui que l'on écoutait. Et il y avait Henri Caillavet qui vraiment ferraillait pour l'euthanasie. Et lui avait toujours des arguments en disant que la mort devait s'affronter avec courage. Et il l'a vécu publiquement, une mort socratique, une mort d'affrontement, une mort que l'on ne fuit pas, une mort que l'on accepte. Et une mort, au fond, une mort, c'est un mot un peu vulgaire, mais une mort pédagogique pour les autres, une mort acceptée. Et j'ai toujours été frappé de voir que Axel Kahn était l'incarnation même de l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire d'une personne qui est capable de ne jamais fuir. Il fait partie, au fond, pour moi, c'est la seule personne qui 70 ou 80 ans après, je serais certain qu'il serait rentré dans la résistance le premier jour. C'est partie des personnages dont on sait qu'ils ne vont jamais trahir, qu'ils ne vont jamais faillir. Et c'est cette rigueur, cette droiture de l'esprit qui me semble le caractériser au mieux.
Et il n'a jamais dévié jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour pratiquement.
Jamais. Et je pense que sa mort est une continuité dans sa vie. C'est-à-dire, c'est exactement l'opposé du tricheur, l'opposé de quelqu'un qui utilise sa popularité à des fins personnelles, qu'elles soient politiques, religieuses, ou il était laïque, il était athée. Mais c'était un honnête homme, c'est-à-dire quelqu'un qui était d'abord d'une grande gentillesse. Je ne l'ai jamais vu agresser qui que ce soit, sauf dans des cas extrêmes. Il avait une grande générosité d'esprit. C'est parti des personnes qui élèvent l'homme. Et il passait son temps, au fond, à dire que le passage sur Terre devait être un moment où chacun devait donner le mieux, le meilleur de lui-même. Et je trouve qu'il l'a donné comme une preuve. Ce ne sont pas des mots. Axel Kahn était l'incarnation d'une parole engagée. Et moi, je n'ai pas l'équivalent dans ce moment depuis 80 ans. Je me souviens pas de personnages aussi fascinants. Il y a des gens qui sont plus beaux, plus intelligents, plus. Mais lui était l'incarnation même de ce que l'on peut demander à un humain dans sa vie, c'est-à-dire une sorte de repère, de boussole de l'existence pour chacun. Et
vous inscrivez
vraiment
grand
scientifique, parce que
oui, c'est ça.
C'est pas du tout un simple communicant. Moi, je me souviens qu'à Cochin, j'étais aussi à Cochin, il a fait des recherches qui sont des recherches de premier ordre. Je me souviens que quand il a découvert l'hormone d'absorption du fer, ça aurait pu très bien être une recherche nobilisable. C'est-à-dire vraiment, c'est pas un petit chercheur, c'est un grand chercheur. Mais il voulait toujours que la recherche ne soit pas enfermée dans un laboratoire, et il voulait qu'elle soit sous deux feux de l'art. Un, le feu de l'éthique et le feu de la société. Et il voulait que chacun puisse porter un jugement. Et c'est pour ça qu'il était assez rigoureux pour l'aventure scientifique où ce qui était possible et devait forcément être devait être possible scientifiquement, devait être admis éthiquement. Il disait justement, l'éthique, elle est là pour être insolente, pour être critique. Elle n'est pas là pour dire le bien et le mal de façon un peu naïve. Elle est là pour en profondeur, soulever des questions que les autres ne soulèvent pas.
Ouais. Il avait le souci, vous parliez de sa popularité tout à l'heure, il ne voulait pas en faire un mauvais usage, c'était un homme effectivement populaire, tout le monde le connaissait, Axel Kahn, il intervenait très régulièrement. Ce n'est pas évident d'être un scientifique, un généticien populaire, de parler d'éthique à tout le monde. Il avait ce souci de s'adresser à tous.
Oui, oui, parce que ça c'était l'homme, c'est-à-dire qu'il il voulait que sa vie soit sinon un modèle. Il voulait que sa parole éclaire le monde. Et alors, ce n'était pas une parole emphatique, c'était une parole très rigoureuse, car quand on analyse sa parole, ça partait d'ailleurs comme une mitrailleuse, mais c'était toujours très argumenté. C'était pas des mots creux, c'était vraiment des mots qui me fascinaient, c'est-à-dire ce qu'on demande, c'est-à-dire d'éclairer. D'apporter non pas une bénédiction ou une malédiction sur le monde, mais d'éclairer les enjeux. Et dans ce domaine, vous savez, les gens sont peu nombreux.
Oui. Et peu se disent qu'ils peuvent prendre ça en charge aussi. C'est pas évident de se dire je
peux prendre ça en charge. Oui, puis alors il y a un peu de timidité. Et puis, au fond, le scientifique qui communique, eh bien, ses pairs sont quelquefois un peu critiques en disant la science, ben, c'est fait pour les scientifiques dans les bureaux, dans les laboratoires fermés. Il ne faut surtout pas, parler parce qu'on va, donner l'impression que la science est un côté populiste. Et lui considérait au fond qu'il pouvait aborder même les questions politiques, même les questions religieuses, les questions philosophiques, il pouvait les aborder non pas seulement de son point de vue scientifique, mais de son point de vue humain, de son point de vue d'homme engagé. Vous savez, l'engagement, c'est pas un engagement, il prenait à témoin, au fond, l'ensemble de l'humanité en disant « je vais là quand je décide de franchir, d'aller de nord-ouest de la France en sud-ouest, puis du nord-est en sud-ouest, je le fais. » Et donc c'est quelqu'un qui était d'une autorité personnelle sur lui-même assez rare. C'est partie des personnes dont on se souviendra parce que elles auront vraiment marqué leur époque par leur singularité.
Qu'est-ce qu'il en restera, Didier Sicard, d'Axel Kahn? Vous dites, on s'en souviendra. Comment ça va être entretenu maintenant qu'il est éteint, qu'on n'entendra plus sa voix?
On s'en souviendra comme quelqu'un, comme un philosophe, comme Socrate, qui a été un modèle, peut-être probablement difficile à imiter. Il n'y a rien de pire que les imitateurs d'Axel Kahn. Mais comme quelqu'un qui, à un moment donné, a été une lumière dans le monde. Une lumière qui n'était pas une lumière religieuse, c'était une lumière spirituelle, une lumière de vérité, une lumière où il est, où, au fond, c'est la promotion de l'homme,
Un humaniste, c'est vraiment le mot qui le résume le mieux, un humaniste.
Bah oui, mais humaniste, vous savez, les humanistes, quelquefois, c'est un petit peu un peu désuet. Et lui, c'était un véritable homme au sens le meilleur que l'homme puisse donner de lui-même, je crois.
Et il est parvenu, si on vous entend bien, effectivement, lui-même à s'élever et peut-être à inspirer d'autres et à le suivre, c'est l'idée.
Et moi, je crois que sa mort est un modèle. Je ne me souviens pas, depuis de longues années, en dehors de ceux qui réclament l'euthanasie à coups de tambour et qui demandent, etc., lui a une mort d'une dignité. Mmh. Et il a essayé de faire participer à sa propre souffrance, donner une leçon de vie, d'affrontement de la mort. Quand il dit « n'ayez pas peur », je crois que c'est une leçon qui peut-être nous restera définitivement.
On retiendra ces mots. Effectivement, merci beaucoup Didier Sicard d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer longuement Axel Kahn, avec qui vous avez longtemps travaillé au sein du Comité consultatif national d'éthique. Merci beaucoup pour votre témoignage.
Merci.
Europe 1, Rémi Bozzaro.
Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité et puis évidemment le rendez-vous avec les grandes voix du mardi.
Europe Soir, le 18-20, Rémi Bozzaro.
18h passées de 31 minutes, bientôt le rappel des titres avec vous Isabelle Millet.
Et l'armée américaine annonce ce soir avoir effectué à plus de 90% son retrait d'Afghanistan, entamé en mai, près de 20 ans après le début de son intervention militaire déclenchée avec l'OTAN dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. La perpétuité requise cet après-midi contre Hubert Caouissin pour le quadruple meurtre de la famille Troidec en 2017 près de Nantes et 3 ans ferme requis contre Lydie Troidec accusée de recel de cadavres et de modification de la scène de crime. Fin du suspense, recalé ou repêché, mention ou pas mention, ça y est, les 715 000 lycéens français sont fixés. C'est aussi le dernier jour de classe ce mardi pour les élèves du primaire. Les grandes vacances commencent officiellement ce soir. La 10e étape du Tour de France entre Albertville et Valence dans la Drôme, remportée au sprint une nouvelle fois par le Britannique Cavendish, qui n'est plus qu'à une étape du record d'Eddy Merckx. Pogacar conserve le maillot jaune et puis une dernière minute en foot, le Mercato. Achraf Hakimi, latéral très convoité de l'Inter Milan, vient de signer au PSG jusqu'en 2026.
Merci Isabelle Millet et on vous retrouve pour un nouveau journal complet à 19h. Tout de suite la météo, un nouveau point avec vous Marlène Duret. Une alerte orange pluie inondation est toujours en cours dans les départements de l'Ain et du Rhône. Jusqu'à demain à 6h, est-ce que la pluie restera au programme ce mercredi?
Alors dans de nombreuses régions en tout cas, à un moment ou à un autre de la journée. On va commencer par cette perturbation qui a donné pas mal de pluie aujourd'hui du massif central au nord-est et qui va donner des pluies résiduelles au niveau des Préalpes demain matin, avant une réactivation en journée sous forme d'averses orageuses dues à la hausse des températures, et ça va concerner une zone qui s'étendra du Jura à une bonne partie de la région Rhône-Alpes, puis à une partie de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, et puis on a de nouvelles averses qui vont grignoter au fil des heures la moitié ouest du pays, s'accompagnant parfois de coups de tonnerre. Les régions du Grand Est et la Bourgogne auront droit à une journée calme et lumineuse avant l'arrivée des averses en soirée. Les températures maximales afficheront 20 à 25 degrés sur la moitié nord, mais pas plus de 18 à 21 près de la Manche et en Bretagne. Elles resteront fraîches dans le sud-ouest avec 20 à 23 et atteindront encore 25 à 30 degrés dans le sud-est, localement 31 à 33 du Var à la Corse.
Merci Marlène Duret, on vous retrouve à 19h pour un nouveau point complet sur la météo.
Europe Soir, le 18-20,
18h33 sur Europe 1, c'est l'heure d'ouvrir le débat des grandes voix avec ce soir Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Bruno Jeudy, rédacteur en chef à Paris Match. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on va commencer par parler d'une bataille ou d'une guerre, on ne sait pas quel mot employer, qui a déjà commencé chez les Républicains. Ils sont en conclave, en bureau politique actuellement, pour décider des modalités qui leur permettraient de faire émerger un candidat en vue de la présidentielle. Évidemment, ça se passe au siège des Républicains. Sur le papier, c'est très compliqué. En pratique, ça a l'air très compliqué aussi, Bruno, jeudi, entre ceux qui veulent ou non une primaire, qui veulent plutôt une primaire ouverte ou non. On a compris hier que certains voulaient qu'elle soit ouverte. Est-ce qu'il y a une raison de penser que les Républicains peuvent s'entendre sur quelque chose aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ça paraît très très compliqué puisque, pour faire simple, d'abord, un, vous employez le mot primaire. Sachez que ce mot primaire n'est jamais dans la bouche de Christian Jacob, qui n'en veut pas. Alors, on dit qu'il évolue, qu'il cherche un autre système. Alors, Gérard Larcher appelle ça le système de départage. D'autres appellent ça un processus de rassemblement. Donc déjà, on ne s'entend pas sur les mots. Alors, est-ce qu'on va s'entendre sur les règles ? Les règles, c'est... une élection à un tour, à deux tours.
Mais dans les statuts, il y a marqué primaire dans le statut des Républicains.
Les statuts vont changer.
Il va changer.
Il y a au moins une chose qu'on sait ce soir, c'est qu'il y aura un congrès des Républicains le 25 septembre qui devrait, j'allais dire, graver dans le marbre le processus de rassemblement autour du candidat. Maintenant, on a bien compris aussi que c'était compliqué puisque entre ceux qui veulent une primaire fermée, ouverte, demi-fermée, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et d'autres. Et puis celui qui n'est pas dans le parti, mais qui ne veut pas entendre parler de primaire parce que lui dit « ma primaire, c'était les régionales qui même me suivent », c'est-à-dire Xavier Bertrand. Ça va être compliqué parce que qui est-ce que Xavier Bertrand, est-ce qu'on peut faire une primaire sans Xavier Bertrand, mais est-ce que Xavier Bertrand peut laisser faire une primaire sans y participer ? Je pense que pour l'instant, on n'a pas la réponse et ceux qui sont en conclave ne l'ont pas non plus.
Alors Emmanuel Dutheil, ceux qui sont en conclave ne sont-ils pas en train de tuer tout seul la dynamique qui était née des régionales et du succès dans les régions?
Oui, c'est certain, parce que ça ramène à ce qui est bien trop souvent la politique. Et là, je prends plutôt ma casquette de citoyen, mais ça nous ramène à des petites manœuvres politiciennes plutôt que de réfléchir à ce que peut être l'avenir du pays. Après, ils sont face aussi à une situation qui est beaucoup plus compliquée que sûrement ce qu'ils avaient imaginé il y a quelques mois. C'est-à-dire que Xavier Bertrand, force est de constater aujourd'hui qu'il a joué un très bon coup politique. Quand il s'est déclaré candidat, franchement, beaucoup de gens ont quand même dit « mais quelle bizarrerie, sitôt avant les régionales, il prend un risque ». Force est de constater qu'il a cranté la suite et que tout est quand même un peu obligé de se décider en fonction de lui. puisque s'il décide de ne pas y aller mais de se maintenir, bon bah il, on a vu que dans les Hauts-de-France ça a plutôt pas trop mal marché, on voit qu'il a un petit potentiel électoral et que le gros problème des candidats républicains, c'est que parmi ceux qui veulent, comme le disait Bruno, une primaire ouverte, semi-fermée, il n'y en a pas, ils ne sont pas 50 à émerger véritablement. Il n'y en a pas un qui, derrière tout ça, on se dit... Vous voyez,
c'est tout le problème, Emmanuel.
Il y a Michel Bernier aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence ce week-end. Je peux vous dire qu'a priori, il n'a pas déchaîné les foules. Xavier Bertrand, à l'inverse, a eu plus d'écho.
C'est le problème d'un candidat qui, quand même, est devant, mais n'a pas fait le trou, comme on dit dans le jargon cycliste. Il n'a pas non plus une avance phénoménale. Et donc, les autres se disent, pourquoi pas moi ? Et ce qui se passe à droite, vous savez, c'est, moi, j'appelle ça le syndrome The Voice. Tout le monde se voit candidat. D'ailleurs, on pourrait allonger la liste. Philippe Juvin, le médecin, Bruno Retailleau, il y a le maire de Cannes et d'autres.
Tout le monde veut y aller.
Et certains, j'allais dire, se disent, de toute façon, tout ce qui pourra empêcher Xavier Bertrand est le bienvenu, parce que Xavier Bertrand n'a pas vraiment que des amis dans ce parti. Ouais. Loin de là, je pense à certains Sarkozy qui parlent haut et fort, ils sortent feu. Je pense au centriste Hervé Morin, qui vraiment, eux, notoirement ont décidé de tout faire pour empêcher Xavier Bertrand d'être candidat.
En tout cas, Bertrand, c'est le seul Xavier Bertrand qui, pour l'instant, s'est affiché en tant que candidat. C'est sa force, sans doute, aussi.
C'est le seul,
aussi.
Vous avez raison.
On va entendre, parce que pendant l'été, dans Europe Soir, on reçoit également des auditeurs qui veulent participer à ces débats des grandes voix. On va écouter André, bonsoir, vous êtes à Strasbourg.
Bonsoir.
Ancien avocat, vous vouliez parler justement de Xavier Bertrand. Pour vous, on parlait d'une guerre qui est en train de se jouer. Pour vous, c'est une guerre en apparence seulement. Bertrand a déjà tué le match ?
Je pense qu'il a déjà tué le match. Et j'ai du respect pour Christian Jacob, qui est un homme de bon sens, qui n'est pas une grosse tête, et qui a compris que c'est de la connerie, c'est primaire. Il y a un adage qui dit « chat échaudé craint l'eau froide ». Ben, visiblement, chez les Républicains, ils ne l'ont pas compris. Chat échaudé, visiblement, adore l'eau froide. Il y a eu le souvenir de Hamon à gauche, de Fillon à droite, où ça mobilisait uniquement l'électorat le plus clivant, qui n'est pas le même que la majorité de l'électorat français global. Et on voit à nouveau que c'est un intellectuel, un homme brillant, certes, M. Leonetti, qui, à côté d'être député-maire ou ancien député et maire d'Antibes-Juan-les-Bains, Juan-les-Pins est un grand professeur de médecine, un grand chirurgien, mais c'est des conceptions intellectuelles, c'est primaire, dont les Français n'ont absolument rien à foutre. Il y a visiblement Xavier Bertrand qui a déjà pris une belle longueur d'avance, qui a joué la carte de la franchise et de l'honnêteté d'entrée de jeu. Il a dit « je ferai ce que j'ai dit ». Il a gagné, et il a très bien gagné dans le nord de la France, eh bien, il y va. Je crois que les autres n'ont absolument aucune chance d'y arriver. Ils ont tout au plus le risque de faire rater la marche du deuxième tour aux candidats de la droite républicaine.
Merci beaucoup, André, pour votre témoignage, votre positionnement. Justement, est-ce que Xavier Bertrand n'a pas intérêt à y aller tout seul et profiter d'une dynamique derrière lui, populaire, au sein, en tout cas, des militants, des sympathisants, des républicains ? On va essayer de répondre à cette question dans un instant.
Europe Soir, le 18-20, Rémi Bozzaro.
La suite du débat des grandes voix à 18h40 sur Europe 1. On continue à parler de ce qui se passe en ce moment au siège des Républicains qui débattent de la meilleure façon, sans doute, de trouver un candidat pour la prochaine présidentielle, primaire ou non, avec qui. Finalement, Bruno Jeudy, est-ce que ce ne sera pas plus simple d'entendre une sorte d'appel, on a pu le sentir chez André, d'un peuple peut-être de droite, disons un peuple de droite, de sympathisants en tout cas, qui disent on a un candidat naturel, comme a dit Guillaume Pelletier à propos de Xavier Bertrand, allons-y, c'est plus simple avec lui aujourd'hui.
Oui, mais la définition du candidat naturel a quand même, il faut reconnaître, n'a plus rien à voir si on considère que Xavier Bertrand est candidat naturel, ça n'a rien à voir avec ce qu'ont été les candidats naturels jadis à droite. Jacques Chirac était un candidat naturel, Nicolas Sarkozy a été un candidat naturel, même si on oublie qu'en 2006, il a dû passer par une espèce de grand oral avec Michel Alliot-Marie. Tout le monde aura oublié cet épisode. Et puis, il y a eu cette fameuse primaire en 2016, qui était quand même une primaire, j'allais dire, très, très, très haut de gamme. Hein. Un ancien président, deux anciens premiers ministres, trois anciens ministres. Donc, c'était quand même une primaire très particulière, qui s'est terminé par une large victoire de François Fillon. Et moi, je continue à penser que ce n'est pas forcément la primaire qui a fait perdre la droite. C'est le fait que le candidat qui sorte de la primaire, le débat s'est tellement radicalisé qu'il n'a pas cherché à rassembler à rassembler à droite. On a bien vu qu'à l'époque, François Fillon n'avait pas suffisamment ouvert les bras vers Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Et puis après, il y a eu la suite. Et donc, c'est ça que craignent aujourd'hui beaucoup des gens, y compris des sympathisants du parti, hein, qui disent « mais on va repartir dans un débat où les choses vont se radicaliser ». Donc voilà, alors le candidat naturel serait aujourd'hui Xavier Bertrand. Je continue à penser que Xavier Bertrand n'a pas non plus fait le trou, et même si aujourd'hui dans les sondages il est plus haut que les autres, il n'est pas encore en mesure d'être au second tour. Et c'est ça qui ferait de lui le candidat naturel. Si aujourd'hui il y avait un sondage qui disait Emmanuel Macron challenge Marine Le Pen ou Emmanuel Macron pour être au second tour de la présidentielle, alors là, oui, le candidat naturel serait désigné et il n'y aurait plus de discussion, y compris de la part de ceux qui ne l'aiment pas.
C'est ça qui lui manque précisément. C'est juste ça, c'est déjà beaucoup.
Non, je pense que c'est pas que ça. On ne peut pas être candidat naturel quand on a failli abandonner son parti et qu'on a failli tourner le dos à la présidentielle, à son propre parti. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, au sein des Républicains, se disent c'est le candidat naturel d'opportunité aujourd'hui. En 2017, on n'aurait pas obligatoirement imaginé qu'il se présente maintenant en premier opposant à Emmanuel Macron. Et il arrive certes avec un très bon bilan, parce que objectivement c'est un président de région qui bosse sur les prérogatives de la région, notamment sur les prérogatives économiques, hein, sur des dossiers phares comme le dossier Ascoval, qui est une fonderie en grande difficulté. Il a beaucoup travaillé pour à chaque fois être aux côtés du gouvernement, trouver des solutions. Mais effectivement, je suis d'accord avec le fait que ce n'est pas un candidat naturel. Et après, ce qui est toujours intéressant, c'est que là, on ne parle que des candidats, et c'est pareil pour les Verts, mais quel est le projet ? Ouais. C'est un candidat pour parler de quoi ? Pour porter quelle valeur ? Parce que c'est bien gentil de dire qu'ils ont gagné les régionales, mais ils ont gagné les régionales sur quel programme ? Il n'y avait pas un programme commun de la droite. Le programme de Valérie Pécresse, très axé sur les transports en Île-de-France, n'a rien à voir avec le programme de Xavier Bertrand ou avec le programme en région Rhône-Alpes. Ça n'avait strictement rien à voir. Donc, et c'est toujours étonnant, et je pense que c'est ça qui énerve aussi beaucoup les gens, et on est tous électeurs ici autour de cette
table. On n'entend pas d'idées pour l'instant.
C'est-à-dire, porter quoi ? Porter quelles idées ? Porter quelle vision de la France ? Et il y a assurément un espace à droite. Il y a assurément une vision. Et je pense que les Français, il y en a beaucoup qui attendent ce retour un peu du match des idées, une opposition gauche-droite, parce que beaucoup se sentent perdus. Donc peut-être que déjà dans un premier temps, travailler là-dessus, si je peux me permettre de leur faire une injonction. Et puis après, on verra bien, et ils verront bien qui pourra être le candidat le plus naturel.
Peut-être pas tant que ça de différence quand même sur le fond entre les candidats. D'abord, si on parle des trois principaux, ils ont tous les trois dans le même gouvernement, ministre de Nicolas Sarkozy. Sur les questions de sécurité, ils ne sont pas loin les uns des autres. Après, c'est vrai que sur la politique économique, c'est sans doute là qu'il y aurait un peu des différences, mais il y a surtout une difficulté à se différencier d'Emmanuel Macron. La difficulté de la droite aujourd'hui, globalement, elle est sur comment se différencier, notamment sur les politiques économiques et sociales d'Emmanuel Macron, sauf sur un point, sur les retraites, où là, pour le coup, la droite en 2017 comme en 2021, elle est plutôt plus claire que le pouvoir actuel. Ils étaient les trois candidats la dernière fois. Tous les candidats la dernière fois étaient pour repousser l'âge de départ à 65 ans, par exemple.
Donc, justement, cette réforme de la retraite, elle était sur la table aujourd'hui. C'est le deuxième thème qu'on va aborder sur la table de l'Élysée pour une réunion avec les membres, les représentants sociaux. Alors, c'était une réunion de consultation, d'écoute. Hein, c'était des termes officiels utilisés par l'exécutif. On trouvait autour de la table également le Premier ministre Jean Castex, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, la ministre du Travail Elisabeth Borne. Tout ça pourquoi, finalement ? Eh bien, on va écouter la réponse du président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux.
On a évoqué la réforme des retraites sans que le président nous ait dévoilé ses intentions. Donc chacun connaît les positions des uns et des autres. Nous, on est favorable à une réforme des retraites qui prenne la seule mesure qui soit vraiment significative, qui est la mesure d'âge. Mais on s'interroge sur le bon timing, surtout avec le variant Delta et la recrudescence.
Geoffrey Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF, après cette consultation des partenaires sociaux à l'Élysée aujourd'hui, notamment sur le thème des retraites, pardon. Bruno, jeudi, on entend que lui-même, pour le MEDEF, se pose la question du timing dans cette dernière partie de mandat d'Emmanuel Macron. Une question avant de débattre plus longuement ensuite. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi se lancer maintenant dans la réforme des retraites alors que manifestement tous les partenaires sociaux freinent ?
C'est intéressant la position du président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, et elle est à l'origine de la grande hésitation du pouvoir. Geoffroy Roux-de-Bézieux dit une chose qui pour lui est simple. En gros, on ne peut pas le faire maintenant. La France sort d'une crise sanitaire. Prendre le risque de bloquer le pays à la rentrée ou à l'automne, ce serait à nouveau mettre les entreprises en difficulté. N'ont pas besoin de ça aujourd'hui, c'est ce qu'il pense lui. Mais il n'en reste pas moins que sur le fond, il veut cette réforme, il veut même que ça aille vite, il veut les 64 ans et il veut ça en septembre 2022. D'ailleurs, L'une des choses que fera le MEDEF pendant la campagne présidentielle, c'est auditionner tous les candidats, et notamment sur la question des retraites. Pas question de repartir avec une commission Delevoye qui balade tout le monde pendant 2 ans, voire plus. Il ne veut pas de ça, comme ça avait été le cas pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, on a perdu beaucoup de temps. Et sur la question des retraites, il y a urgence, mais pas maintenant. C'est le choix.
Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron peut accélérer malgré tout, malgré ce que vous venez de dire sur la position du MEDEF et des différents partenaires sociaux? On va voir ça dans un instant avec vous et Emmanuel Détail.
Europe Soir, le 18-20, Rémi Botsaro.
Et dans le débat des grandes voix, on continue à parler de cette possible réforme de la retraite qui pourrait être lancée dès la rentrée par Emmanuel Macron. Il en donne l'impression, en tout cas. On vient de parler de tous les risques que ça pourrait susciter. Mais vous, Francis, on vous retrouve, vous êtes à Nancy, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes l'un de ces auditeurs qui peut participer cet été à ce débat des grandes voix. Et selon vous, ça pourrait être intéressant stratégiquement pour Emmanuel Macron de relancer maintenant la réforme des retraites.
Oui, absolument. Emmanuel Macron n'a qu'une seule chance d'être réélu en 2022, c'est d'être en face de Marine Le Pen au deuxième tour. Pour être en face de Marine Le Pen au deuxième tour, il faut qu'il arrive à diviser les Républicains, c'est bien parti pour, la gauche étant déjà divisée, et il faut qu'il arrive à rassembler un minimum de citoyens autour de lui. Or, quand est-ce qu'on voit les citoyens se rassembler autour du président depuis 40 ans que je m'intéresse à la vie politique, quand il se passe quelque chose entre guillemets de grave. Exemple, un engagement de l'armée française sur un terrain d'opération extérieure, exemple les attentats, exemple les grèves importantes en 2009 ou 10 sous Sarkozy, exemple le mouvement des Gilets jaunes. On voyait qu'il y avait une radicalisation de l'électorat de droite contre ces gilets jaunes. Et donc, je pense qu'il aurait intérêt à secouer un peu la France à la rentrée. Alors, tout ça se fait, bien entendu, sous réserve d'un variant Delta ou Alpha Omega. Voilà.
Mais il aurait intérêt, selon vous, à créer un climat de tension, finalement, avec cette réforme.
Oui, c'est le seul moyen, parce que en face, ils vont être la droite, la droite va être divisée, et la droite n'aura qu'un seul moyen de battre Macron, c'est de se rassembler au dernier moment vers le candidat de la dernière heure. Et j'imagine très bien quelqu'un comme Michel Barnier. Je ne vote pas, j'analyse, mais je ne vote pas pour tous ces gens-là, je vote nul en général. Et donc, je pense que Michel Barnier pourrait faire l'affaire parce qu'il n'a pas participé aux joutes internes départementales régionales. Il a un peu de hauteur, il a participé au il a été le monsieur Brexit. Et donc, il pourrait arriver pour essayer de synthétiser les idées de droite. Et j'imagine très bien que Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Wauquiez, Retailleau et tous ceux qui vont se déclarer maintenant à droite pour faire parler d'eux, pourrait très bien se rassembler derrière.
D'accord. En tout cas, on comprend qu'il y a un outil politique, ça pourrait être utilisé comme un outil politique par Emmanuel Macron dès la rentrée, cette réforme de retraite. Ça pourrait expliquer pourquoi, merci pour votre analyse, Francis, pourquoi il s'empare de ce dossier qu'on dit toujours explosif. Maintenant, Emmanuel Dutheil, vous voyez ça comme un possible outil politique intéressant pour lui à la rentrée?
Moi, je pense que c'était très clairement un ballon d'essai après les élections régionales pour, effectivement, où je suis d'accord là avec notre auditeur, essayer d'aller draguer les électeurs de droite qui foncièrement n'ont pas voté pour lui lors de ces régionales. Après, attention, je crois vraiment au fait que c'était un ballon d'essai de voir ce qui était possible. Et on ne fait pas une réforme des retraites quand on a contre soi le patronat et la totalité des syndicats. Tous pas pour les mêmes raisons, mais je trouve que si on écoute par exemple Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF, qu'on passait tout à l'heure, pourquoi il n'en veut pas? Parce qu'il veut une vraie réforme. Et la CFDT, qui ne voudrait pas la même réforme que le patronat, et pas loin de cette idée. C'est-à-dire que là encore, ce week-end, aux rencontres économiques d'Aix, Laurent Berger, le patron de la CFDT, était là. Et lui aussi était très clair sur cette idée. C'est-à-dire qu'une réforme est importante, mais on ne la fait pas sur un coin de table, là, en quelques mois, dans un pays qui est en opposition. Et le MEDEF dit exactement la même chose. On n'aura pas 50 coups, on ne va pas revenir 254 fois sur cette réforme des retraites. Donc, ils veulent quelque chose. Il y en a un qui, au sein du gouvernement, en revanche, rêve d'une réforme des retraites. Là, pousse dans tous les sens, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, c'est Bruno Le Maire. Ouais. Là, c'est clair que je pense qu'Emmanuel Macron, il doit être abreuvé de notes sur le fait qu'il faut faire cette réforme. Mais, en tout cas, de ce qui nous retourne là, et plutôt du parti politique, mais également du côté des syndicats et du patronat, ce sera le thème de 2022. Ce sera en tout cas un des thèmes principaux de 2022 avec une réforme compréhensible, utile du point de vue de celui qui l'a fait et porteuse.
Bruno Jeudy, c'est ça l'élément où, selon vous, l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est d'imposer ce thème en disant attention, je peux le faire maintenant. Bon, finalement, ça sera en tout cas un thème qui va s'imposer.
Écoutez, Emmanuel Macron, ça fait 4 ans qu'il parle de la réforme des retraites. je pense qu'il a eu le temps de la faire. Bon, alors il a eu effectivement la crise sanitaire l'a empêché. Compliqué. Elle aurait pu passer d'ailleurs. Hein. Elle a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale, cette fameuse réforme de retraite par points, auquel, à mon avis, je continue à penser que personne n'a rien compris. Hein. D'ailleurs, les ministres le disent eux-mêmes maintenant. Bruno Le Maire, Emmanuel en parlait à l'instant. Il nous a fait un petit brief, comme on dit, off avec les journalistes, lui-même disant je défie quiconque de dire s'il a compris quelque chose à la réforme des retraites. Donc, vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Non, je crois que c'est trop tard. Il y a des rythmes politiques. Les Français, aujourd'hui, sortent de la crise sanitaire, leur mettent les 64 ans maintenant. Moi, je crois qu'il faut le faire. Hein. La question n'est pas de savoir s'il faut le faire. Il faut le faire. Mais là,
mais pourquoi en parler s'il sait que c'est trop tard, alors ?
Mais parce que c'est la technique. Non, mais parce que c'est la technique Emmanuel Macron. On en parle parce que politiquement, on va dans le jardin et on essaie d'enlever un argument à la droite. Et même si on ne le fait pas, au moins, on a laissé entendre qu'on allait le faire.
Donc ça va s'arrêter à cette réunion d'aujourd'hui.
Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron...
Ce n'était pas le but de cette réunion. À la base, ils parlaient de la vaccination et ils ont rajouté... un échange autour des retraites, mais c'est la réalité.
Oui, bien sûr.
C'était pas.
Je trouve que c'est risqué de la part d'Emmanuel Macron parce qu'il aura parlé de beaucoup de choses,
en revanche,
souvent pour des tactiques politiques, et sauf à ce qu'il dise quelque chose, qu'il dise le contraire lundi, lorsqu'il va s'exprimer, probablement lundi, et qu'il ne le fait pas. C'est-à-dire, c'est ça. Donc, à mon avis, en parler et ne pas le faire à l'arrivée, je ne vois pas où est le bénéfice politique.
Oui, c'est peut donner l'impression de reculer assez vite. Donc, c'est ça. Il faut réussir à imposer le thème.
Jean Castex était plus clair sur la question. Ouais. Lui, il pense que, justement, ce n'est pas le moment de le faire.
Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, vos deux grandes voix du soir. 18h56 sur Europe 1. On se retrouve dans un instant pour le journal de 19h.